notre bibliothèque. Je m'appelle frère Joël Moreira. Je suis frère de Notre-Dame de Sion. C'est une congrégation catholique. Et ça, c'est notre communauté. Nous avons une communauté juste dans l'étage en dessous. J'ai fait mes études ici à Paris. Et on fait dans cette bibliothèque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bibliothèque dédiée aux études judéo-chrétiennes. Ça, c'est le charisme de notre congrégation, de faire les rapports et les dialogues entre judaïsme et christianisme. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent, nous avons encore d'autres livres au sous-sol. Okay, on a beaucoup de livres sur le judaïsme. Pour ceux qui s'intéressent, nous avons tous les catalogues disponibles en ligne. Vous pouvez, là, vous avez affiché en bleu notre site. Et aussi, pour ceux qui s'intéressent, venez. Okay, on a 2 jours par semaine. Il y a des gens ici pour vous recevoir et vous pouvez faire des recherches comme vous voulez. Okay? La bibliothèque est ouverte à tous. Et merci beaucoup pour venir. Okay? On a plus de gens qu'on attendait, mais c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Okay, merci aussi, Sigrid. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sigrid Acker, elle est diplômée supérieure d'études orientalistes à ELCOA et maître de hébreu moderne, enseignante en hébreu biblique au Bernardin et spécialiste du Midrash et d'anthropologie religieuse. Et aussi, elle est membre du centre. Oui? Ok, vous me corrigez, sinon. Elle est membre aussi du service diocésain pour les relations avec le judaïsme du diocèse d'Evry.
Exactement.
Ok. Merci beaucoup pour venir et voilà.
Mm-hmm. Oui, je remercie Joël de m'avoir proposé de faire cette conférence. Donc, j'ai accepté tout de suite, mais je n'ai pas eu énormément de temps pour préparer parce que j'étais très occupée ces 2 dernières semaines. Vous verrez, c'est quelque chose de très simple que j'ai préparé. Et je vous remercie aussi beaucoup de venir si nombreux. Je suis très contente de retrouver beaucoup de visages connus, beaucoup de dépaysants aussi. Alors, j'ai vu déjà que l'hébreu ne s'affiche pas comme il faut, parce que, c'est comme ça. Oui, j'ai un tableau où je peux réécrire l'hébreu comme il faut, très, très bien. Et donc, je vais parler ce soir de la dernière scène de Jésus, le dernier repas de Jésus, et le mettre en perspective avec le céder de Pessah. Et là, nous sommes juste avant le dimanche des Rameaux, nous sommes juste en train, enfin, avant de rentrer dans la semaine sainte. Et c'est sans doute intéressant de se rappeler que notre Pâque chrétienne doit beaucoup à la Pâque juive. Enfin, sans la Pâque juive, il n'y aurait pas de Pâque chrétienne. Donc, la Pâque juive dépend beaucoup de cette Pâque que Jésus a fêtée avec ses disciples. Et c'est bon de relire, de se préparer à cette Semaine Sainte en revoyant tous ces éléments. Donc, en plus, cette année, la Pâque juive tombe en même temps. Vous savez, le premier soir de Céder, c'est mercredi 1er avril. Notre Pâque chrétienne, c'est le 5 avril. La Pâque juive dure 8 jours, n'est-ce pas? Du 1er avril au soir jusqu'au 9 mars. Il y a 9 avril. Oh. Bon, c'est la fin de la semaine. Hein. Donc ça dure 8 jours. Ça, c'est intéressant. Hein. Pendant 8 jours, donc nos frères juifs ont mangé ces pains azim que vous voyez ici. Là, j'ai déjà essayé de mettre en perspective un peu les deux. Alors, 8 jours, alors le nombre 8 est associé au temps messianique. La circoncision aussi a lieu un 8e jour, donc c'est, le 8, c'est en gros 7 plus 1. Donc, ça, un nouveau jour qui inaugure une nouvelle ère, l'ère messianique. Voilà, donc c'est bon de se rappeler un peu tout ça. Ça tombe. Donc, les deux fêtes tombent vraiment en même temps. Et, alors, j'ai organisé un peu mon intervention ce soir en trois moments. Donc, je vais revenir d'abord sur le premier repas. Donc, au moment de la sortie d'Égypte, je vais beaucoup faire allusion à Exode 12. Donc, je vais parler de ce premier repas que Dieu a ordonné de faire avant la sortie, ce repas de libération, avant la libération, avant la sortie d'Égypte. Jésus l'a fêté aussi avec ses disciples à sa manière. Il l'a sûrement pas fêté comme on le fête aujourd'hui lors du Seder. Alors Seder, pour expliquer déjà ce mot, Seder veut dire ordre, et c'est un repas qui suit un ordre établi. Et justement, monsieur, madame ont apporté ce magnifique tableau. Et sur plateau. Ce tableau, plateau plutôt, sur ce plateau, vous avez les étapes du CEDER qu'on va suivre et qu'on va aussi rappeler au début du repas. Donc, je commence par ce premier repas, donc au moment de la sortie d'Égypte, tel qu'il est raconté dans Exode 12. Et voilà, ça marche. L'hébreu ne s'affiche pas. Et je me suis dit que je commence en revenant sur le sens du mot de Pessah. Je vais l'écrire au tableau. Le mot Pessah apparaît la première fois dans le texte biblique, dans le chapitre 12 de l'Exode. Alors, pour situer ce chapitre 12, donc la sortie du peuple hébreu d'Égypte est imminente. Dieu s'apprête encore à frapper une dernière fois l'Égypte par une ultime plaie, la mort des premiers-nés, hein, vous savez tout cela. Et à cette occasion, Dieu prescrit aux familles des Hébreux de prendre un agneau, de l'immoler, de badigeonner les linteaux des portes avec le sang de celui-ci. De sorte que quand Dieu passera, hein, il puisse reconnaître les maisons des Hébreux et laisser les premiers-nés, donc des Hébreux, indemnes. Et vous savez que cet agneau doit être choisi soigneusement. On lira tout à l'heure ce passage. Il devrait être rôti au feu, accompagné de pain sans levain, ainsi que d'herbes amères. Il faut le consommer à la hâte. Et c'est là qu'au verset 11 du chapitre 12 apparaît ce mot pour la première fois, Pessah, hein, Pessah pour désigner cet agneau pascal. Et Pessah apparaît même 5 fois dans ce chapitre 12. Et vous avez aussi le verbe qui est utilisé. C'est le verbe qui est intéressant, qu'il faut examiner. Alors, le verbe apparaît au verset 13. Alors, lisons ce passage. Hein, c'est la Pâque Pessah d'Adonai. C'est la conclusion, en fait, le dernier bout du verset 11. On va relire ce verset tout à l'heure. Donc, on est dans cette annonce de la sortie d'Égypte. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis Adonai. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je sauterai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et donc, Pessah, d'où ça vient, c'est mis ici en relation avec un verbe, Passah. Vous connaissez sûrement déjà ce sens. Ça veut dire passer par-dessus. Là, j'ai donné d'autres synonymes. Enjamber, sauter par-dessus. Et d'où aussi le sens de... On a le sens de épargner, sauver. Alors, ce verbe passar, donc traduit ici l'action de Dieu qui intervient dans l'histoire, hein, ce Dieu qui fait irruption dans l'histoire des hommes pour en changer radicalement le cours. Et Rashi commente ce mot Pessah qu'on a dans le verset 11. Donc le sacrifice, donc l'agneau pascal, est appelé Pessah en raison de l'action de Dieu de sauter par-dessus les maisons des Hébreux, de les épargner et de sauver. Voilà, donc j'avais cru important de vous rappeler ce sens de mot, hein, passer par-dessus, sauver, intervenir dans l'histoire. Donc tu bondis dans l'histoire des hommes, hein. Je pense que c'est important d'avoir ce sens. Alors là, ah oui, oh, là c'est la page où l'hébreu ne s'affiche pas, vous avez quand même la translittération. Alors le mot Pessah apparaît, bien sûr vous avez plein d'autres occurrences. Alors qu'est-ce qu'on trouve donc comme expression avec Pessah? Shachat Pessah, égorger la Pâque. Donc on voit bien que Pessah c'est en rapport avec l'agneau pascal, on dit immoler la Pâque, aussi le sacrifice de Pâque, Zevar à Pessah. On a Bichel à Pessah, préparer, cuisiner la Pâque, manger la Pâque, Achal à Pessah, faire la Pâque aussi. On trouve ces expressions, enfin, c'est préparer la Pâque, hein, on la trouve dans les évangiles, justement. Hein, donc, Pessah, c'est un terme pour désigner l'agneau pascal. Donc, voilà, page un peu... ça ne s'affiche pas bien, mais ça, ce n'est pas bien grave. Et donc, la première Pâque, le premier passage, c'est effectivement cette sortie d'Égypte. Et commençons par le début du chapitre 12. Donc Adonai dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dieu commence par établir un nouveau calendrier, hein, pour marquer cette nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire du peuple hébreu. Ça se caractérise par l'établissement d'un nouveau calendrier. Et vous savez tous que le mois de Nissan, il y a du reste un Shabbat spécial quand c'est le début du mois de Nissan. Le mois de Nissan est le début du mois par rapport au calendrier liturgique des fêtes juives. Il y a quatre débuts de l'année, mais Nissan, vous connaissez le mot en hébreu, c'est vraiment ce premier mois liturgique. Pessah est la première fête. Et Dieu commence par instituer un nouveau calendrier. Ça marque aussi la rupture avec l'Égypte. Et il faut préparer la Pâque. Que dit la suite du texte? Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc on a des indications très, très, très précises. On prépare ce repas que Dieu prescrit ici déjà dès le dixième jour du mois de Nissan. La sortie d'Égypte a eu lieu le 15, au milieu du mois. Alors les instructions continuent. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera au crépuscule. On prendra de son sang, voilà le sang qui est important aussi dans les évangiles, hein, c'est ce sang qui sauve. Et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce texte ? L'agneau, il faut le rôtir, hein, on l'accompagne avec des pains sans levain, des herbes amères. Il ne faut rien laisser. Il faut le manger entièrement, le reste on le brûle. Il faut du reste prévoir ce repas sans qu'il y ait de reste. Hein, on ne laisse rien en Égypte. Allez, je ne vais pas en dire plus. Et le verset 11, continuons. Je pense que vous connaissez quand même ce texte. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque du Seigneur, d'Adonai. Voilà le mot Pâque, ça c'est le terme qu'on a vu déjà tout à l'heure. Donc il y a une certaine manière, un ordre qu'il faut respecter. Oui, il y a des indications bien précises. Il faut le manger déjà prêt à partir. Donc la ceinture mise prête à partir, les souliers aux pieds, votre bâton à la main. Faut le manger rapidement puisque Dieu intervient rapidement. La hâte est quelque chose de très important. Le Midrash dit joliment, hein, pourquoi est-ce qu'il faut se dépêcher de le manger? C'est pas bon pour la santé, hein, de trop se dépêcher. Alors pourquoi cette hâte? Alors le Midrash dit, Dieu avait hâte de sauver son peuple, comme le peuple avait hâte de sortir d'Égypte. Et puis face à cette dixième plaie qui s'abat sur les Égyptiens, les Égyptiens avaient aussi hâte de voir les Hébreux partir. Hein, cette hâte va avoir une incidence sur le pain, la pâte qu'ils emmènent, qui n'a pas eu le temps de lever. Et alors, donc, cet agneau est consommé juste avant de partir. On ne se complique pas la vie avec des ustensiles quand on cuit, par exemple, l'agneau dans une bonne sauce ou quelque chose, on le rôtit. Hein. C'est vraiment une manière très élémentaire de préparer cet agneau. Et on le prépare prêt à partir. Et donc, ce premier repas, en fait, que Dieu ordonne de faire en Égypte avant de sortir, c'est un repas pour affronter la route. C'est un repas pour prendre des forces avant de partir. Il vaut mieux quand on fait une grande randonnée, quand même, d'avoir des forces. Et donc, c'est un repas qui est une sorte de viatique pour avoir des forces pour entreprendre la route. Il y a une chose que je n'ai pas dite, bien sûr, la Pâque a toujours lieu au printemps, hein, quand la nature renaît. C'est le temps où on peut prendre la route. Hein. En hiver, il y a trop de... il pleut, les routes sont embourbées, donc au printemps, on peut reprendre la route. Alors, le printemps, c'est aussi le renouveau. Alors, il y a des commentateurs qui pensent qu'en fait, prendre un jeune agneau, hein, les agneaux naissent au printemps, qui devait être intègre, sans défaut. En fait, c'était un ancien rite agricole. Hein, on sacrifiait un agneau pour attirer les bénédictions divines sur le troupeau et on le mangeait avec des herbes vertes qui venaient juste de pousser pour fêter le printemps. Ce repas est en lien, bien sûr, aussi avec ce renouveau de la nature. C'est un repas de rupture. Je dis un peu ça, un peu pêle-mêle. Alors, on continue. Alors, toujours dans le chapitre 12 de l'Exode, l'événement a lieu la nuit, à minuit. Adonai frappa tout premier-né au pays d'Égypte, du premier-né du pharaon au premier-né du captif dans la prison. Le pharaon se leva cette nuit-là, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut un grand cri en Égypte, car il ne se trouvait pas une maison sans un mort. Ils pressèrent le peuple en disant « Nous allons tous mourir ». Le peuple dut emporter sa pâte avant qu'elle n'eût levé. Ils serrèrent les pétrins dans leur manteau et les mirent sur l'épaule. Voilà l'origine des matzot par la suite. Donc pour dire aussi que le peuple n'a pas eu le temps vraiment de... Enfin, bien sûr, il y a cette injonction de prendre ce repas. Mais on voit bien, si on lit ce verset, que le peuple ne s'est pas vraiment préparé, n'a pas prévu des provisions. Ou comme seule provision, qu'est-ce qu'il a emporté? C'est la pâte qui était dans le pétrin, la pâte qui n'a pas eu le temps de lever. Et donc, il y a aussi un autre pas juste après être sorti. Ils partirent de Ramsès à Soukhot et ils firent cuire la pâte qu'ils avaient fait sortir d'Égypte. Elle donna des galettes sans levain car elle n'avait pas levé. Donc, effectivement, ces galettes dont il est question ici, ce n'est pas la même chose que galette qu'il faut manger en accompagnant l'agneau pascal. Et là, c'est vraiment le pain sur la route, un peu le pain de pauvreté qu'on va retrouver dans la aussi dans les matzot par la suite. C'est pas ce pain bien levé qui a bon goût. C'est un pain fait avec ce qu'on a, un pain d'urgence qui accompagne le peuple sur la route. Le peuple bénéficiera plus tard de la manne qui tombe dans le désert. Donc Dieu prend soin de son peuple, assure ses besoins. Alors, avançons. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre. Alors, donc le chapitre 12 est extrêmement long, plus de 40 versets. Et dans ce texte, il est dit qu'il faut faire mémoire de cet événement. Donc déjà dans le texte, c'est inscrit de garder la mémoire de ce jour. Ce jour-là vous servira de mémorial. Alors j'ai écrit le mot en translittéré, ici zikaron. Ça c'est un mot important, se rappeler du passé pour le futur. Le mot zikaron est un mot intéressant. Je vais quand même l'écrire au tableau en hébreu. Zikaron. Le verbe, c'est le verbe zahar, se souvenir. De cette racine, zahar, se souvenir, vient aussi un autre mot en hébreu qui veut dire zahar avec deux kamats. Hein, le verbe, c'est kamats patar. Et zahar veut dire le mâle, le masculin. Et donc, ce souvenir, ça veut dire aussi féconder, engendrer le présent. C'est fécond de se souvenir d'un Dieu qui libère, qui intervient, bondit dans l'histoire. C'est se souvenir aussi qu'il y a quand même la mort de tous ces Égyptiens, tous ces premiers-nés. Hein, c'est se souvenir de cet événement fondateur, en vivre maintenant, dans le temps présent. Donc il faut faire mémoire de ce jour, hein, et donc effectivement ça se fait à travers ce repas pascal, ce seder aujourd'hui. Alors lisons ces deux versets que j'ai mis sur le ici que vous voyez à l'écran. Hein, ce jour-là vous servira de mémorial, donc le 14 Nissan. Vous le célébrerez par une fête en l'honneur d'Adonai. Ce sera une loi perpétuelle pour vos descendants. Cette nuit sera célébrée en l'honneur d'Adonai parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur d'Adonai par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Alors là aussi, on a le motif de la nuit qui apparaît. Dieu intervient à vos souhaits, la briote. Dieu intervient la nuit. Alors la nuit apparaît aussi dans ce chapitre 12 qui est très riche. Je vous invite vraiment, si vous avez le temps avant d'entrer dans dans cette semaine sainte de relire ce chapitre 12. Il est du reste question d'une nuit que Dieu a gardée, une nuit particulière. Et je n'ai pas fait de diapo spécifique à cette nuit spéciale que Dieu a gardée, a donné lieu à des développements dans la littérature rabbinique. Il y a comme ça quatre nuits. Hein, vous avez ce fameux poème des quatre nuits, peut-être vous le connaissez. Hein, Dieu a distingué dans l'histoire quatre nuits. Il y a la nuit associée à la création, la nuit associée à la ligature d'Isaac, la nuit de Pâques, et puis la nuit à venir où Dieu enverra son Messie pour une libération ultime. Lisez un peu tout ce chapitre 12. Dans ce chapitre 12, allez, quelque chose que je n'ai pas mis sur la feuille, on nous donne aussi d'autres lois. Par exemple, on nous dit que aucun incirconcis ne pourra manger de ce repas pascal. Et dans la tradition rabbinique, il est dit pour pouvoir célébrer la Pâque, le peuple aurait procédé à la circoncision. Et dans la littérature rabbinique, ce sang de la circoncision se serait mêlé au sang de l'agneau. Donc la tradition rabbinique parle de deux sangs. Ça, c'est aussi une chose intéressante, beaucoup de choses. Dans ce chapitre 12, vraiment lisez-le, méditez-le. Donc c'est un jour dont il faut faire mémoire. Alors Exode 13, versets 3 à 8, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par une main puissante que Adonai vous en a fait sortir. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. » Pessah a aussi comme nom la Chag HaMatzot, la fête de levain. On a vu que c'était une partie importante de la fête. Et dans ce passage de l'Exode, on trouve aussi le devoir pour faire mémoire, il faut enseigner, raconter l'événement à ses enfants. Tu raconteras, higadta, là j'ai mis aussi le mot hébreu en transitéré sur la feuille, tu raconteras alors à ton fils et en mémoire de ce que Adonai a fait pour moi. Le « pour moi » est aussi important parce qu'à Pessah, il faut, ou lors de ce seder, il faut se sentir comme si soi-même on était sorti d'Égypte. Donc le seder, le repas pascal, sert à actualiser l'événement. Et ce verbe « higadta » a donné plus tard, vous retrouvez ce mot higadta, tu raconteras dans le mot la Haggada de Pessah. Vous savez que le soir du Seder, on lit le récit de la sortie d'Égypte, on lit cette Haggada qui veut dire récit. Et c'est un récit codifié, donc chaque convive lors de ce seder pascal trouve à sa place cette Haggada. Alors j'en ai rapporté une que j'aime beaucoup, c'est la Haggada présentée par Rivon Krigier avec des peintures de Garouste. Vous avez tout d'abord le texte de la de la Haggadah, tel qu'il apparaît dans une Haggadah habituelle. Et puis, vous avez un très long commentaire dessus. Donc, je ne peux que vous le... conseiller. Donc voilà, on a tous les ingrédients maintenant pour pouvoir parler de la de comment aujourd'hui on fait mémoire de cette sortie d'Égypte, de cette libération de l'esclavage aujourd'hui. Alors, avant de passer à ce céder aujourd'hui, sur cette diapo, vous voyez les célébrations de la Pâque qui sont racontées dans la Bible, bien sûr dans le désert, hein, le peuple aussi dans le désert a fêté Pessah. Quand Josué a fait entrer le peuple hébreu sur la terre, le peuple a célébré Pessah. Josué a aussi procédé en même temps à la circoncision, comme si dans le désert le peuple n'était pas circoncis. Donc c'est vraiment une fête de l'alliance. Et puis vous avez quelques Pâques, fêtes de Pâques mémorables dans le texte, hein, quand il y a des réformes qui sont entreprises, on fête Pâques pour renouveler l'alliance. Vous avez cela par exemple avec Ézéchias, je pense que vous connaissez le roi Ézéchias, hein. Ézéchias a entrepris aussi, comme Josias, une réforme. Hein, et donc, il réunit le peuple autour de cette fête. Comme Josias, je pense que vous avez tous entendu parler de la réforme de Josias. Hein, Josias a découvert, est-ce que c'était le Deutéronome ? Il a découvert un rouleau de la Torah dans le temple, ce qui l'a poussé à faire des réformes, à détruire les lieux de culte. Et il a aussi organisé une fête de Pâques pour se rappeler ce Dieu qui sauve, hein, ce Dieu qui met fin à l'esclavage. Et donc il a scellé aussi, enfin renouvelé l'alliance autour de cette fête de Pâques. Et bien sûr aussi quand les Hébreux sont revenus de l'exil, ils ont fêté la Pâque. Bon, arrivons enfin à la manière dont on prépare la fête de Pâques aujourd'hui, Pessah, aujourd'hui, il faut faire le ménage, chasser le hametz, vous le savez tous. Donc on débarrasse la maison de tout ce qui est pain levé pour laisser la place à la nouveauté. Dans le passé, le pain était fait, on prélevait le levain sur la pâte d'avant, on gardait un peu de levain pour fabriquer son nouveau pain. Et manger du pain non levé, ça veut dire une rupture. Hein, donc ce pain... non levé, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qu'on entame. C'est une rupture avec le passé. Et comme je l'ai déjà dit, donc on fait mémoire de la sortie d'Égypte aussi autour d'un d'un repas. On se rappelle ce repas qu'avaient pris les Hébreux au moment de la sortie d'Égypte. Voilà, ce repas s'appelle Seder. J'ai déjà parlé de ce mot tout à l'heure, un repas qui se déroule selon un certain ordre. Donc là, vous voyez justement cette Haggadah de Pessah. On prépare aussi un plat avec des mets symboliques qu'on va manger ce jour-là. Moi, j'en ai apporté un. Je ne l'ai pas garni ce soir, mais j'aurais pu le garnir. On en parlera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez aussi sur la photo? Vous voyez la kippa, vous voyez aussi les coupes de vin, n'est-ce pas, hein? Quatre coupes de vin qu'il faut boire. Il y a un petit bol avec de l'eau salée. Et donc, comme jadis, les Hébreux qui ont préparé ce repas, donc là aussi, on prépare ce repas.
Il y a un verre qui est différent.
Oui, il y a un verre qui est un peu...
petit au milieu.
Oui, tout à fait. Mais il y en a quatre. Il y a quatre coupes.
C'est toujours quatre.
Ce sont toujours quatre, plus une cinquième.
Voilà, c'est ça.
Oui, vous savez déjà tout cela. Peut-être vous savez tout ça déjà. Donc au milieu de cette table, je vais parler un peu plus de ce plateau. Donc ce plateau qui joue un rôle important. Alors, qu'est-ce que vous voyez dessus? Il y a des herbes amères, hein, par exemple le persil qui rappelle les herbes amères dont il faut accompagner l'agneau. Il y a de la salade carpas. De la salade qui rappelle le printemps. Là, vous avez une sorte de pâte un peu brunâtre qui est faite de pommes, de noix, un peu de vin qui rappelle le mortier en Égypte, qui rappelle aussi comment Dieu a changé la souffrance en lumière, en quelque chose de doux. Oui, le radis qui rappelle les herbes amères. Et vous avez aussi un œuf qui trône sur ce plateau. Il y a les œufs, ça nous rappelle les œufs de Pâques pour nous, le printemps. Alors, curieusement, l'œuf est un symbole de deuil dans le judaïsme. On donne à des endeuillés des œufs parce que l'œuf est rond et ça rappelle le cycle de la vie ou le destin qui tourne. Et alors, pourquoi cet œuf? L'œuf rappelle la destruction du temple. Donc, bien sûr, ce repas de Seder, je ne l'ai pas dit, il s'est développé au fil du temps, c'est enrichi. Et toutes les cérémonies, ou même quand on va dans une synagogue aujourd'hui, on rappelle la destruction du temple. Il y a toujours quelque chose dans une synagogue qui n'est pas achevé. Vous savez peut-être qu'au moment du mariage, on casse un verre. La joie ne peut pas être pas parfaite. Donc l'œuf rappelle ici le temple. Donc la Haggadah est un texte codifié qui s'est enrichi au fil du temps. Alors la Haggadah, c'est un texte qui s'est surtout développé après la destruction du temple. Et peut-être une chose que je peux dire, dans le monde entier, en fait, Pessah de la même manière. Hein, la Haggadah est identique pour tous les, enfin, pour tous les Juifs, où qu'ils soient. Et ça me rappelle aussi un peu la messe, hein, hein, où qu'on soit, ou dans quelques pays où on soit, ou quelques langues, et dites la messe, on s'y retrouve parce qu'on connaît l'ordre. Voilà, il y a un grand linge ici. Alors on y glisse les matzot. Alors j'en ai apporté un, je ne l'ai pas sorti. Il me semble que je l'ai apporté. Oui. Bon, voilà, j'ai essayé de ramener tout mon matériel. Donc on a un linge spécial pour les matzot. Voilà, matza pour les hébraïsants. Et vous avez ici trois poches, parce qu'on met comme ça sur la table. Donc trois matzot superposées qui ont plein de significations différentes. Les trois matzot rappellent aussi les trois patriarches, par exemple. Donc voilà, on tresse la table, on prépare ce repas. Alors sur la diapo suivante, j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer la fabrication des matzot qui jouent un rôle important à cette fête. Alors pour préparer ce pain azim, il faut faire vite, parce que avant que la pâte ne fermente, ça va très vite. Donc il faut c'est fait en 18 minutes. Donc il faut vraiment le savoir faire. Là, vous avez justement une belle Haggadah illuminée. On a effectivement de magnifiques manuscrits de cette Haggadah, le récit. Hein, tu feras le récit des événements à tes enfants. Là, vous pouvez déchiffrer Pessah, Matza, Maror, les trois éléments importants. Là aussi, Pessah, Matza, Maror. C'est une page plutôt au moment où on va commencer le repas. On rappelle encore une fois solennellement les trois éléments importants. Hein, Pessah, l'agneau pascal, Matza, le pain azim, et Maror, les herbes amères. Alors, ce repas suit un ordre établi. Vous avez 14 étapes, voire 15 étapes. Selon les sources, on trouve 14, soit 15 étapes. Le numéro 7 est un peu divisé en deux. Et justement, ça, c'est ce qu'on a ici. Et au début du repas, on rappelle l'ordre. On se le dit. Voire on le chante aussi. Et donc là vous avez ces 14. Ah, là, on a 15 étapes. Mais... Donc, on a soit 14, 15. Quand j'ai consulté les sources, c'est très intriguant. Il y en a qui disent qu'il y en a 14, il y en a qui disent qu'il y en a 15 étapes. Alors, le nombre est bien sûr significatif pour les hébraïsants. 14, ça s'écrit Yod, Dalet, et ça forme le mot main. Et ça renvoie à cette main forte de Dieu qui bondit dans l'histoire. 15, c'est pas moins intéressant. Du reste, on trouvera un chant qui a 15 couplets, le Dayenu. 15, c'est la valeur numérique de Yah, la forme courte du tétragramme. Et donc, ce céder, c'est un chemin qui mène vers Dieu, qui permet de, de s'approcher de Dieu, de faire un chemin spirituel aussi. Vous avez par exemple aussi les 15 psaumes des montées. Ça va aussi par 15. Les nombres sont toujours significatifs. Hein. 15 étapes pour s'approcher de Dieu. Donc 14, 15. Je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de personne, pas de rabbin qui a pu me dire d'une certitude. Non, c'est 14, c'est pas 15, ou c'est 15, c'est pas 14. Enfin, ça oscille entre les deux, et ce n'est pas bien grave. Donc, on va regarder rapidement, parce que je vois que le temps avance, mais je crois que vous avez un peu le temps. Donc, on va regarder un peu ces 14 étapes. Et vous avez aussi donc 4 coupes de vin qu'il faut boire ce soir-là. Donc qui interviennent à différents moments, hein, c'est codifié aussi. Alors pourquoi le vin ? Le vin, c'est une boisson d'homme libre. Le vin participe aussi à la fête. C'est que les hommes libres qui peuvent boire du vin. Ça participe à la joie. Oui, vous pouvez prendre des photos. Je peux aussi donner à Joël mon PDF avec l'hébreu bien, voilà, qui s'affiche bien. Là, il s'affiche bien parce que ce n'est pas la même police, donc vous l'aurez. Alors, et justement, on entre dans la célébration en bénissant le vin. Moi, j'ai aussi rapporté une belle coupe qui sert pour le kiddush, au kadesh, sanctifie, impératif. Donc, on rentre dans cette fête de Pessah avec en bénissant la toute première coupe de vin, et on récite une bénédiction qui est aussi celle qu'on récite à Shabbat. Hein, tu es béni, tu es source de bénédiction, Adonai, notre Dieu, souverain de l'univers, toi qui crée le fruit de la vigne. C'est exactement la même Boré Péri à Gafen, c'est la bénédiction pour Shabbat aussi. Alors, pas de fête sans vin. Hein, le vin participe à la fête, hein, et on entre dans cette fête avec cette coupe qu'on appelle la coupe de sanctification. Le repas est sanctifié, ce céder. Et c'est du vin rouge, oui. Ça peut être aussi du jus de raisin. Alors, 4 coupes, pourquoi 4 coupes ? Alors là, il faut revenir à nouveau à l'Exode. Alors, 4 coupes en se rappelant les actions de Dieu qui sauve. Ainsi dit aux enfants d'Israël, je suis Adonai, je vous ferai sortir de dessous les fardeaux de l'Égypte, je vous sauverai de leur asservissement, je vous délivrerai par un bras étendu et par de grands prodiges, je vous prendrai pour peuple et je vous serai Dieu, et vous saurez que je suis Adonai, votre Dieu, qui vous soustrait de dessous les fardeaux de l'Égypte. Donc, 4 verbes, d'où 4 coupes. Il y a encore un cinquième verbe que vous avez dans la suite, que vous retrouverez si vous vous rapportez à votre texte, et je vous ferai entrer dans la terre. Il y a la promesse de la terre. Donc, cinquième verbe, et le cinquième verbe est en relation avec la coupe d'Élie par la... par la suite. Vous verrez, le 4 va vers le 15, vers le 5, comme le 14 tend vers le 15. Hein, on augmente toujours, hein, donc 4 coupes. Alors, on se lave les mains sans bénédiction. On commence par manger un peu de persil trempé dans de l'eau salée. C'est un peu comme une sorte d'apéritif qu'on peut se dire. Oui, on mange c'est plutôt du carpas, ça veut dire des légumes verts. C'est en rapport avec le printemps. Il y a peut-être une surprise parce que on s'attend à la bénédiction sur le pain, mais voilà qu'on fait une chose absolument étonnante. On trempe de la verdure dans de l'eau, hein, source des questionnements des enfants par la suite. Hein. Donc on trempe le persil ou de la salade dans de l'eau salée. L'eau salée rappelle les larmes versées par les Hébreux dans l'esclavage. Alors faire ce geste de tremper quelque chose, si on regarde la littérature rabbinique, alors peut-être bien sûr, ça rappelle le geste des Hébreux qui doivent tremper des bouquets pour pouvoir asperger dans le sang de l'agneau pour pouvoir asperger les linteaux des portes, donc ça rappelle aussi ce geste. Et dans la littérature rabbinique, il y a aussi un lien qui est fait avec la fameuse tunique de Joseph trempée dans le sang afin de faire croire à Jacob que Joseph est mort. Et là, c'est un trempage qui est justement où cette descente de Joseph en Égypte, c'est le prélude à la descente de l'Égypte. Donc, ça rappelle aussi le début de toute cette histoire de la descente en Égypte. On mange accoudé aussi, ça c'est à dire aussi. Le modèle du repas du céder, c'est un peu le banquet grec. Alors ensuite, alors là, le maître de maison, c'est souvent le père de famille, fait à nouveau quelque chose d'insolite. Il prend la matza du milieu, la casse en deux. Il la brise, il met une partie dans un linge qui va être caché par la suite. C'est ce qu'on va appeler l'aphikomane. Alors, pourquoi est-ce qu'il la brise? Alors, ça peut nous rappeler aussi à la messe, la fraction du pain. Alors, la raison de ce geste, c'est de se rappeler la pauvreté du peuple en Égypte. Cette matza est aussi appelée le pain de pauvreté. On a ça dans Deutéronome 16. Et en plus, les pauvres n'ont pas assez pour pouvoir manger un pain entier, ils peuvent se contenter d'une moitié. Et donc ce geste de briser la matza renvoie encore une fois à l'Égypte, à ce peuple brisé par la souffrance. Et là, effectivement, donc on prend une partie qu'on met dans ce linge. Pendant le CEDER, il y a des personnes qui ont l'habitude de le prendre sur les épaules pour rappeler la patte qui a été emmenée. Et puis, ce bout qu'on a ici, on cache ce petit bout pour la fin du repas. Donc, à la fin du repas, on va la retrouver. Alors, les enfants doivent la chercher, du reste. Enfin, on la cache, les enfants doivent la chercher. Comme les enfants sont partis prenants de cette fête, il faut les garder éveillés jusqu'à la fin du repas. Donc, ils ont hâte de devoir chercher ce bout de matza. Je vous en dirai un mot plus tard. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Hein. C'est le pain de la matza, le pain de l'humilité. C'est aussi le pain de la foi, si on peut dire. Donc après toutes ces gestes un peu insolites qu'on fait au début du texte, on commence la cinquième partie, ma guide a à voir avec Haggadah. Là, on procède plutôt au récit de la sortie d'Égypte, hein, ce récit qui est lancé par les enfants. Oui, ce pain brisé, on l'appelle le pain de misère. Voici ce pain de misère que nos pères mangèrent en Égypte. C'est quand même bizarre, c'est le pain de misère que les Hébreux ont mangé en Égypte. Il y a plusieurs types de pain qui sont évoqués, en fait. Il y a le pain qu'on mange pour accompagner l'agneau, ce pain qu'on emporte. Là, d'un seul coup, ce pain, c'est le pain de misère qui rappelle le pain que les Hébreux ont mangé en Égypte. Il y a des petits glissements qui se font. Alors ça, c'est une partie qu'on dit en araméen, hein, ce halachma ania. On va aller un peu plus loin. Et bien sûr, ce sont les enfants qui sont à l'honneur pendant cette soirée. Ce sont eux qui lancent le récit par leurs questions qu'ils posent. À ce moment-là, on verse du reste aussi, donc au moment du Maggid, on verse la deuxième coupe de vin. La première coupe, on l'a bu pour entrer dans la fête. Là, le Maggid, ce récit, est accompagné de la deuxième coupe de vin. J'y reviendrai tout à l'heure. Et donc, on a ces quatre questions des enfants que vous connaissez. On a aussi des musiques assez traditionnelles, enfin, que vous connaissez. Ce « Ma nishtana balayla hazé »« Ma nishtana halayla hazé »« Mikol halelot » Enfin, vous connaissez sûrement la musique, donc c'est des airs traditionnels. Et donc, les enfants lancent la question, pourquoi est-ce qu'on trempe les légumes? Pourquoi est-ce qu'on trempe la nourriture? Pourquoi on mange ce jour-là seulement de la matza? Pourquoi est-ce qu'on mange ces herbes amères? Pourquoi est-ce qu'on mange accoudé comme les hommes libres? Tous ces pourquoi des enfants donc lance le CEDER, hein, le père de famille y répond. Bien sûr, ces quatre questions vont aussi vers une cinquième question, poussent vers une cinquième question, qui est la question que chacun peut se poser. Hein, pourquoi est-ce qu'on fait cela? Moi, je me souviens aussi un soir, c'était le Jeudi Saint dans notre paroisse, hein, et on avait chamboulé tous les bancs dans notre église pour pouvoir dresser une grande table. Et j'avais une fille, ma petite dernière, qui n'arrêtait pas de me poser les questions. Mais pourquoi, maman, c'est comme... Pourquoi c'est comme ça, c'est pas comme ça d'habitude. Donc, il faut susciter l'intérêt et les questions qui sont si importantes. Alors, le cédeur de Pessah, vous le savez aussi, met en scène quatre types d'enfants, avec chacun des questionnements bien spécifique. On retrouve aussi le 4 hein, qui tend aussi peut-être vers un cinquième type d'enfant. Alors pourquoi aussi 4 enfants? Parce que dans la Torah, on trouve à 4 reprises, hein, et si les enfants vous demandent, qu'est-ce que ça signifie? Donc, on a à chaque fois des réponses différentes. Les sages, selon la réponse qui est donnée, on déduit un peu ce type d'enfant. Donc, on a le sage, le rachat, le rebelle, le méchant, le simple, celui qui ne sait pas interroger. Il faut apprendre à savoir poser des questions. C'est tout un art, savoir poser des questions. C'est bien sûr basé sur des versets bibliques. Le sage, donc l'enfant sage, que dit-il? Quelles questions est-ce qu'il va poser? Quels sont les témoignages, les statuts, les lois que Adonai, notre Dieu, vous a ordonnées? Quelle est la marche à suivre? Et la réponse est intéressante. Tu lui enseigneras les lois de Pessah et surtout tu lui dis on ne mange aucun dessert après l'agneau pascal, c'est-à-dire le repas pascal se termine avec la matza et on reste sur le goût de la panne matza. Cet enfant très intellectuel, on lui dit il faut avoir le goût de la matza dans la bouche, ne reste pas trop, bien sûr tu es là avec tes interrogations, mais c'est quelque chose qu'on vit. Garde cette matza dans la bouche. Il faut le vivre. Je reviendrai tout à l'heure sur la matza avec laquelle on achève le repas. Le rachat, le rebelle, est celui qui s'exclut de l'assemblée. Qu'est-ce que c'est ce culte pour vous? Il ne prend pas part. Aussi, toi, agace-lui les dents et dis-lui, c'est pour ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je suis sortie d'Égypte. Pour moi, hein, c'est quelque chose à vivre soi-même. Enfin, le tam, celui qui ne sait pas interroger, mais avançons. Bien sûr, alors le récit de la... qu'on fait de la sortie d'Égypte n'est pas basé, on ne reprend pas le texte de l'Exode. Le texte de base qui est commenté dans une Haggadah, c'est le chapitre 24 du livre de Josué. Lisez ce texte et aussi Deutéronome 26, hein, quand tu seras entré dans la terre, quand tu... apportera ta récolte, hein, tu rendras grâce pour tout ce que Dieu t'a fait, hein, donc Deutéronome 26 est mentionné. Il y a quelque chose qui est intéressant, Moïse ne paraît pas dans ce texte. Alors pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas? Pour ne pas le glorifier, hein, tout le mérite revient à Dieu, hein, c'est Dieu qui agit. Et on évite de glorifier un humain. Pendant cette partie du Magid, qui dure un certain nombre de temps, on finit par avoir faim quand même, sont rappelés aussi les 10 plaies. Et on a toujours devant soi ce deuxième verre de vin et on enlève à chaque plaie qu'on cite, on enlève un peu de vin avec son doigt, on fait couler des gouttes de vin. Donc pour enlever quelque chose de cette joie de Pessah. La joie de Pessah ne peut être entière, il y a eu quand même mort d'homme. Donc on se rappelle aussi tous les morts qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte. Et quand on a fait le récit, on chante le soir de Pessah, c'est très joyeux, il y a énormément de chants, surtout à la fin aussi, pour les enfants aussi, donc beaucoup de chants. Dai Yeno, ça nous aurait suffi. Dieu nous a vraiment comblés de bienfaits, il nous a fait aussi ceci, et encore une chose en plus. Donc c'est un chant d'action de grâce. Dai, ça suffit. Dai, dai, yenu, dai, dai, yenu, dai, dai, yenu, dai, yenu, dai, yenu. La 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 la. Vous connaissez sûrement ce chant. Donc on est arrivé à la fin de ce Maguide. Alors on a après ce récit. Donc on a fait la sortie d'Égypte. Quelques remarques encore avant de passer au repas. Alors la chose qui est importante, dans chaque génération, l'homme est tenu de se considérer lui-même comme il était sorti d'Égypte. Faire mémoire, ça veut dire aussi revivre l'événement. Oui, le Saint béni soit-il n'a pas libéré seulement nos pères d'Égypte, mais nous aussi. Hein, nous, on était déjà présents à ce moment. Donc, le repas sert à actualiser cet événement. Alors, on se rappelle aussi à la fin du repas, à la fin de cette partie du Maguide, on se rappelle encore une fois les trois choses importantes, hein, la Pessah, l'agneau pascal, Matza et Maror, on se le rappelle, et le Maguide, et c'est à ce moment-là qu'on boit la deuxième coupe. Je vais quand même vous lire la suite parce que je n'ai pas mis tout sur cette diapo. Voilà, j'y suis. Donc ça, c'est vraiment la conclusion du Maguide. C'est pour cela que nous tenons à remercier, à louer, à glorifier, à vanter, à exalter, à célébrer, à bénir, à élever, à magnifier celui qui a fait tous ces miracles pour nos pères. Et cette phrase que je viens de vous lire est une transition pour les psaumes du Hallel qu'on va lire. Alors, les psaumes du Hallel, ce sont les psaumes 113 à 118. Et on récite une première partie. Ces psaumes sont coupés en deux. Et donc, ça débouche sur la louange, bien sûr. On ne peut que louer Dieu pour la libération qu'il a accomplie. Alors là, ensuite, les étapes suivantes, on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, on a récité commence à réciter ce Hallel. Ce que je veux quand même dire, que le repas qu'on va prendre est une louange aussi. Le repas qu'on mange, c'est une louange à Dieu. Donc là, on va encore une fois se laver les mains avec une bénédiction. On bénit les matzot, le pain azim, on a une bénédiction spéciale, on mange un bout de matza, on mange aussi les herbes amères. Ensuite, On a une coutume de consommer, là je l'ai marqué, donc en suivant la coutume de Hillel, Korer s'appelle cette partie, un sandwich, hein, une bouchée. Alors je parle un peu de cette bouchée parce qu'on trouve peut-être cette bouchée dans l'évangile de Jean. Et puis on mange, hein, Shulchan Orer, la table est servie, là c'est le repas qu'on prend. On a mangé le repas et c'est là qu'on va oui, demander aux enfants de rechercher ce morceau de matzah qu'on a caché. Je fais un peu vite, je saute un peu des choses. Ici, voilà, voilà le Hallel, j'y suis là, attendez, je vais m'y retrouver. Enfin, en tout cas, on termine le repas. Je ne sais plus à quel moment on intervient, c'est plutôt à la fin, la coupe d'Élie. Bon, on va rechercher un peu cela. En tout cas, le... Ah oui, voilà. Ah bah oui, c'est marqué. Donc le repas est terminé et on va... Donc, chercher ce morceau de matzah caché pour terminer le repas avec ce goût de la matzah. Donc, on ne mange rien après. Ah, la matzah, c'est un peu cette madeleine de Proust un peu. C'est... Ce pain simple devient ce pain de la liberté, c'est aussi ce pain de la route. Et donc on termine ce repas avec ce morceau qu'on a caché. Après le repas, on précède aux bénédictions, enfin on bénit le repas qu'on vient de faire. Troisième coupe de vin. Effectivement, là, on a la coupe d'Élie. Alors, parce que, bien sûr, Pessah, c'est le rappel de cet événement passé, mais ça ouvre sur le futur. Hein. On rappelle le passé pour envisager l'avenir. Et cette libération que Dieu a opérée au moment de sortir son peuple ouvre sur une libération plus grande qui est la venue du Messie. La fête de Pessah est une fête messianique, on l'a déjà dit. Donc après les bénédictions du repas, on récite la deuxième partie des psaumes du Hallel, quatrième coupe de vin et on a la conclusion de Seder avec ce fameux l'an prochain à Jérusalem. On termine la soirée avec des chants. Un des chants très célèbres, c'est le Chat Gadia, le chant de l'agneau. Et vous avez aussi cette comptine numérique. C'est vraiment les enfants qui sont à l'honneur. Un qui sait, deux qui sait, ce Echad Miyodea, comptine numérique, mais vous savez tout cela. Alors, je vois que le temps passe terriblement. Alors, passons maintenant à ma toute dernière partie. Je vais le faire pas trop long, j'espère. Et donc, Jésus aussi a fait mémoire de ce repas à célébrer. Donc la Pâque, Pessah en bon juif qui pratique les mitzvot, hein, les évangiles présentent Jésus comme un juif pratiquant. Effectivement, il meurt, ressuscite à ce moment-là. Pâques est investi d'un nouveau sens. Alors, le repas que fait Jésus a tout d'un repas pascal. Bien sûr, la Haggadah et le Seder que je vous ai décrit n'étaient pas encore constitués à l'époque de Jésus. Cette Haggadah n'a été formée qu'après la destruction du temple. Donc, on n'a pas encore un repas codifié qui est décrit dans les évangiles. Mais il y a beaucoup de choses de ce repas pascal sont présentes dans le récit des évangiles. Alors, les éléments qui sont présents, c'est la coupe de vin, le kiddush. Vous avez aussi le pain rompu. Vous avez la bouchée plutôt dans l'évangile de Jean. Vous avez aussi la récitation des psaumes du Hallel. On trouve ça par exemple dans l'évangile de Matthieu. Après avoir cité les psaumes, Jésus sort dans le jardin des Oliviers. Dans ma note de la Tobe, il est dit qu'il a récité ce Hallel. C'est intéressant, lisez ces psaumes, 113 à 118, beaucoup d'éléments qui font écho, par exemple, je ne mourrai pas, je vivrai, ce sont des psaumes de confiance, enfin, lisez un peu ces psaumes. Peut-être une chose qui est absente dans les évangiles, c'est l'agneau. Pascal, on a beaucoup parlé de l'agneau. Dans le Seder aujourd'hui, l'agneau est aussi absent, mais parce que le temple n'existe plus. Dans les récits des évangiles, l'agneau n'est pas mentionné. C'est parce que Jésus est l'agneau. Alors là, sur ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez absolument regarder dans les évangiles synoptiques les récits de l'institution de l'Eucharistie. Et Luc est intéressant parce que il cite deux coupes. La fête des pains sans levain qu'on appelle Pâques approchait. Quand le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque était arrivé, Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Le repas pendant lequel Jésus a institué l'Eucharistie, on fait mémoire à la messe de ce dernier repas de Jésus, on fait mémoire de cette mort, résurrection de Jésus, de ce grand saut, n'est-ce pas, de la mort à la vie, de la vie à la mort à la vie. Donc, il semble ici que ce repas est vraiment un repas pascal. Il cherche un lieu, je ne vais pas lire la fin du texte, c'est plutôt la suite du texte ici, sur cette nouvelle diapo qui est intéressante. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui, il leur dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Vous voyez, la parole est aussi importante. Comme là, pendant le Seder, on prend la parole. Alors, et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ça nous rappelle aussi la coupe pendant le céder qui est associée au magide, à ce récit. Donc on a une coupe associée à une parole. Ça, c'est la première coupe qui est mentionnée. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Donc, montrer le pain et associer à une parole, comme c'est le cas dans le céder de Pessah. Ce pain représente ce pain de pauvreté, ce pain mangé en Égypte. C'est à la fois le viatique, ce pain qui représente une rupture avec le passé. Là aussi, on a un pain associé à quelque chose de nouveau. « Ceci est mon corps ». Rupture par rapport au passé. Et là, on a une nouvelle coupe en plus. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » L'évangile de Luc est particulier parce qu'il mentionne deux coupes. Alors, si on voulait les mettre en parallèle avec les quatre coupes qu'on a dans notre... dans le céder actuel, donc quatre coupes, on en a parlé. La coupe pour entrer dans le repas, coupe de sanctification. Sanctifier veut dire s'élever. Participe à la joie. Il y a la coupe de proclamation. C'est pour ça qu'on a aussi cette parole de Jésus associée à une coupe. Alors, La coupe qui sert d'institution de l'Eucharistie, c'est la coupe comme Eucharistie, action de grâce. C'est plutôt la coupe qui sert à converse, je ne l'ai pas précisé, pour bénir le repas qu'on vient de faire. On sert une troisième coupe de vin. Donc c'est plutôt cette coupe de bénédiction. Effectivement, au moment du Hallel, on a encore une autre coupe. Donc on voit que déjà il y a des éléments présents qu'on a dans la Haggadah qui sont présents dans ce texte. J'ai fait aussi un équivalent. C'est un peu ce que disent le chercheur, un peu, vous voyez, la matzah intervient à plusieurs fois dans la Haggadah de Pessah. À quel moment est-ce qu'on peut, associer cette parole de Jésus, « Ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Beaucoup de chercheurs actuels associent ce moment avec l'afikoman, le morceau de pain qu'on consomme à la fin du repas, qui représente le Messie, en fait. Bon, là, sur la diapo, vous avez Jean, Dans l'évangile de Jean, là on n'est plus dans les trois évangiles synoptiques. Alors on n'a pas l'institution de l'Eucharistie qui est racontée. Vous avez plutôt le lavement des pieds qui est raconté. Et on est dans Jean clairement avant la Pâque. Et Jésus meurt au moment où, dans le temple, on sacrifiait l'agneau pascal. Mais on a quand même la question de la bouchée. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Oui, Jésus et l'agneau pascal. Vous avez ça pas. Donc, Jésus meurt au moment où on immolait l'agneau dans le temple. Vous avez aussi Jean qui cite les Écritures. Dernière phrase, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Ça nous renvoie à Exode 12, donc Jésus et l'agneau pascal. Et là, j'ai fini. Je suis allée un peu plus vite pour cette dernière partie. Mais je vois que j'ai énormément parlé. Enfin, que c'était long. Vous étiez patient. Donc, je vais arrêter là. Peut-être vous avez des questions. Oui, là, il y a déjà une question.
Pourquoi la coupe ne serait pas la cinquième, celle d'Élie, oui. qui prépare le futur?
Oui.
Bonne question. Oui,
c'est... Il me semble qu'il y a un moment où vous y avez fait allusion, parce que j'ai écrit que pour la cinquième coupe, vous avez dit « et je vous ferai entrer dans le pays... »
Tout à fait, c'est le verset de l'Exode, Exode 6,
voilà, c'est ça.
Le cinquième...
En terre promise.
Mm-hmm. Est-ce que ça... Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'au temps de Jésus, ça existait déjà? Enfin, bien sûr, Élie apparaît dans les évangiles. Pourquoi pas? Faudrait regarder dans la littérature actuelle, ce qu'en disent les exégètes. Je ne sais pas si c'était très clair ce que j'ai raconté. Je suis allée un peu vite.
Je n'ai pas précisé ce qu'était le repas. Est-ce que c'est de l'agneau?
Côté juif, ils ne mangent pas l'agneau. Je sais que côté chrétien, on a l'habitude de manger de l'agneau. Ce n'est pas du tout le cas côté juif. Ils mangent des œufs, souvent en entrée, salade. Et puis, c'est un repas. Ils mangent de la viande, bien sûr, mais pas d'agneau. On ne mange pas d'agneau parce que l'agneau a été sacrifié au temple. Ça renvoie à quelque chose qu'on ne fait plus. Oui.
Oui. Pourquoi l'agneau a sacrifié ou a honoré, ça dépend, devait-il être un mâle?
Ah, oui, pourquoi un mâle? On gardait, alors ça c'est une question aussi d'éleveurs, ce sont les agnelles, non? Est-ce que ça se met au féminin? Sont infiniment précieuses parce qu'elles portent la vie entre elles. Donc, les agneaux mâles, on peut se contenter d'un qui va ensemencer les autres. Donc, peut-être aussi les enfants mâles sont jetés dans le Nil, pas les filles. Mais en tout cas, les bêtes femelles sont précieuses parce qu'elles portent la vie. Donc, on les garde. Pharaon n'était pas très malin pour jeter dans le Nil que les garçons, en fait. Je ne sais pas. Oui, je vous ai pris beaucoup de temps. Encore une autre question. Alors, alors sinon, je vous souhaite une belle fête de Pessah, une bonne semaine pascale.
En termes de temps, ça se passe de quelle heure à quelle heure? Il n'y a pas de limite?
Alors, si, il y a une limite, justement. Vous voyez, il y a tellement de choses à dire. Le repas pascal se termine à minuit. On va guère... au-delà. Et aussi, il y a des commentateurs qui disent, bon, le modèle du repas pascal, c'est le banquet grec-romain. Hein, on mange comme un homme libre, accoudé, peut-être, je ne sais pas assisté. Mais on ne fait pas ce que font les Romains. Ils vont de maison en maison, de fête en fête. Ils ne... ils vont aussi un peu, aujourd'hui, c'est le tour des bars, hein, un peu. Donc, on s'arrête un moment. On veille, mais on sait mettre une limite. On ne se laisse pas aller à la débauche. Enfin, on suit certaines communes, coutumes des Romains, des Grecs, mais on sait se maîtriser. Donc, le repas se termine à minuit. Il faut reproduire la hâte aussi. La hâte qui est importante. Donc, on fait vite comme les Hébreux qui ont fait vite. Hein.
Et les enfants, ils restent jusqu'à minuit.
Et les enfants restent jusqu'à... jusqu'au soir, ils chantent. On termine ce soir avec des chants. Là aussi, il y a encore une question. Bien sûr, il y a du vin spécial, Kasher les Pessars, qui est utilisé. Un vin dont toute la fabrication a été supervisé par des juifs pour garantir qu'il est kasher, qu'il est pur, qu'il n'y a pas de chametz. Bien sûr. Bon, sur le vin, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Le vin est aussi un substitut au sang. Vous voyez déjà la couleur. Et le vin est appelé dans Deutéronome 32 le sang de la vigne. Donc, le vin se substitue au sang. Encore une question. Oui.
Sur la Haggadah, tu as dit que ça a été mis, le céder comme ça, a été mis en place après la destruction du temple. Mais combien de temps après la destruction? Est-ce qu'on a une idée de quand ça a été formalisé? Comme c'est pratiqué aujourd'hui.
Alors, ça a commencé après la destruction du temple. C'est bien sûr, c'est la destruction du temple en 70 par les Romains est un événement important. Et s'est mis en place ce judaïsme rabbinique centré autour de la Torah, autour de la parole. Et donc, les sages ont compris qu'ils pouvaient... fêter cette Pâque, enfin cet événement, sans avoir besoin du temple. Et ça s'est vraiment fixé au fil du temps. Ça, c'est un texte qui s'est enrichi au fil du temps avec des poésies liturgiques, enfin des poésies, des poèmes, des chants qui se sont ajoutés à cette Haggadah. Donc c'est vraiment dans les premiers siècles. Que ce texte, ce texte forme, s'est formé.
Et cette forme, celle qu'on a aujourd'hui, elle a été fixée quand? Parce qu'elle ne continue pas
Alors, elle a été fixée au Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, on a ces beaux manuscrits, donc ça s'est fait au premier millénaire. Lisez un peu cette Haggadah, donc elle se trouve dans le commerce. Vous pouvez trouver cette version... avec les notes de Rivonne Grigier, vous apprendrez beaucoup de choses. Oui, encore une question.
Pourquoi dit-on indifféremment peut-être la Pâque ou selon la formule qu'on emploie quand on est catholique, joyeuse Pâque ou pluriel?
Ah oui, pourquoi le pluriel? On peut utiliser aussi le singulier aussi. Mais parce que c'est le pluriel, parce que c'est pour rappeler aussi la première Pâque. Donc, et c'est aussi une différenciation orthographique pour différencier la Pâque juive de la Pâque chrétienne. Donc on a un pluriel, s'il y en a d'autres qui savent pourquoi on a le pluriel. Oui. Et donc, il y a une différence d'orthographe, Pâque juive, Pâque chrétienne, au pluriel. Voilà.
C'est les adultes qui ont le Haggadah.
Tous ceux qui savent lire, on l'a Haggadah et on lit ce texte en hébreu, bien sûr, sauf dans les communautés libérales où on prend plutôt un texte traduit parce que tout le monde ne connaît pas l'hébreu. On peut aussi prendre aujourd'hui des libertés par rapport au texte pour l'adapter. J'ai aussi une petite Haggadah que j'aime beaucoup. Je l'ai amenée aussi, c'est celle de Elie Wiesel, hein, commentée par Elie Wiesel. Alors, comme autre indication bibliographique, vous avez ce cahier évangile sur les fêtes juives que je ne peux que vous conseiller. Vous avez aussi le déroulement du Seder qui est décrit dans ce livre. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire encore. C'est extrêmement riche. Là, c'était un peu quelques grandes lignes. Donc, moi, je vous souhaite de belles fêtes de Pâques. Donc relisez un peu ces textes de l'Exode. Plongez-vous dans une Haggadah. Il y a encore une dernière question, non ? Non ? Bon. Oui, encore une question.
Est-ce que c'est vrai que ce soir-là, il faut laisser la porte ouverte ?
Tout à fait. On ouvre à la fin, on ouvre la porte pour que Elie puisse venir.
Alors, est-ce que c'est l'étranger qui peut venir ou c'est le prophète ?
Alors, l'étranger est invité au début du Maggid que tous ceux qui ont faim viennent. Et c'est dit en araméen. C'est une fête ouverte.
Un peu comme Shabbat, d'ailleurs.
Oui, oui, oui. Il y a toujours une place qui est laissée pour un invité surprise. Celui qu'on n'a pas prévu. Donc, ça ouvre toujours sur une suite. Ça, ouais. 4 coupes, 5 coupes. Sa question, un invité encore en plus, Elie.
Absolument. Merci.
Bon retour pour vous. Merci.